Non, mais j'y vais doucement parce qu'il est un peu malade.
Ça y est, c'est bon. Je le coupe. Ça. C'est ça. D'accord. Alors, vous allez le voir, le prêche est divisé en deux parties. Il y a la partie qui nous concerne et puis la partie qui nous concerne. Ah, je suis trop loin. Voilà. Ça va mieux, là? Merci. Donc, je reprends. Le prêche est partagé, est fait en deux parties. Il y a la partie qui nous concerne et puis la partie qui nous concerne. Et ce n'est pas les mêmes. Il y a une partie historique dans ce prêche qui s'inscrit dans la révolte constante, générale, qui caractérise la psychologie et l'action et l'œuvre de Christ. Et qui nous concerne toujours, parce que cette capacité de révolte, c'est notre capacité à nous indigner vis-à-vis des choses qui ne sont pas supportables. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui nous concerne de façon beaucoup plus intime, alors beaucoup moins dans l'action, mais en même temps dans un travail qui est beaucoup plus intime, qui est notre relation directe, personnelle, à Dieu. Précisons d'abord le contexte de l'intrigue. Il s'agit d'un piège tendu à Jésus pour l'amener à révéler publiquement sa position séditieuse. Séditieuse parce qu'elle défie ouvertement les autorités. Les pharisiens, de connivence avec les représentants du roi Hérode, se rendent auprès de Jésus et commencent par le flatter. « Maître, nous savons que tu es franc, que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité. Ne nous y trompons pas. » Ils ne rendent pas hommage à Jésus. Leur flatterie n'est rien d'autre qu'un procédé oratoire uniquement destiné à engager le combat. Ils enchaînent donc avec les propos suivants. « Tu enseignes sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. » Nous y voilà. Cette phrase introduit le fond de l'affaire. Le reproche majeur fait à Jésus, à savoir son non-respect de l'autorité. Pour ses adversaires, son crime est un crime de lèse hiérarchie. Imaginez un peu, que tu sois riche ou pauvre, puissant ou misérable, l'incroyable liberté de Jésus t'apporte une pensée qui ne rend compte qu'à Dieu seul. Aux petites gens, son public de prédilection, il offre une autre façon de voir le monde et leur en propose une lecture d'amour. Aux gouvernants, dont il n'a rien à attendre, il apporte une contradiction radicale. Jésus n'a aucun respect pour les hiérarchies en place, qu'elles soient religieuses, sociales, ethniques ou politiques. Et c'est bien cette accusation que formulent en fait les représentants de la hiérarchie politico-religieuse d'Israël. Les ennemis de Jésus portent alors hypocritement le débat sur la question centrale, celle du paiement de l'impôt, qui de fait est celle de sa soumission à l'autorité de l'État romain. Les voici qui lui demandent alors s'il pense qu'il est permis de payer l'impôt. Pharisiens et Hérodiens se placent ainsi en position faussement contestataire, faisant écho sans l'exprimer ouvertement à la résistance du peuple juif contre l'occupant. Le piège est tendu. Si Jésus déclare qu'il est permis de payer l'impôt, c'est qu'il accepte l'ordre établi par les hommes, la domination des puissants, l'occupation de la terre sacrée d'Israël par les Romains. Pire encore, dans tout l'Empire, César était divinisé. Or, pour un juif monothéiste de cette époque, reconnaître César dans sa dimension divine s'assimile au scandaleux culte des idoles. A l'inverse, si Jésus appelle publiquement à ne pas payer l'impôt, c'est la guerre civile, il enclenche immédiatement un cycle répressif brutal de la part des autorités. Pour sortir du piège que Jésus dénonce en traitant les Hérodiens d'hypocrites, il déplace la question, comme il fait d'ailleurs la plupart du temps. C'est vraiment la technique portée vers l'universel. Il déplace la question et la porte sur un plan théologique et philosophique universel. Les deux, théologique et philosophique, universel. Ce faisant, nous verrons qu'il réplique bien sûr à ses détracteurs, mais qu'il s'adresse aussi et surtout à toute l'assistance. Sa réponse ouvre une perspective tellement plus vaste, tellement pertinente, que ses ennemis en resteront littéralement stupéfaits, abasourdis, ils en seront réduits à se taire et à s'éclipser sans plus attendre. Dans sa réponse, Jésus commence d'abord par demander à avoir un denier, une pièce de monnaie de l'époque qui servait à payer l'impôt. Laquelle monnaie montre évidemment l'effigie de César, son nom, son titre, le tout en latin. L'assistance au complet a sous les yeux le portrait d'un homme seulement, juste d'un homme, ainsi que des inscriptions dans une langue étrangère à la terre d'Israël. Le décor est planté. Jésus délivre alors le cœur de son message. « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette phrase a supposé que Jésus l'ait prononcée de cette manière, parce que je la trouve quand même très littéraire, elle est bien balancée quand même, c'est bien fait, est explosive. Avec la pièce de monnaie, tout le monde a sous les yeux le portrait de César. Et voici que Jésus affirme que César n'est pas Dieu. Rappelons que dans la Rome antique, la déification de l'empereur était source de légitimité. Avec cette déification, le pouvoir politique romain s'infiltre au sein des organisations religieuses de chaque pays occupé pour les utiliser à son profit. Quand Jésus refuse la déité de César, il signifie explicitement que César n'est pas son maître et sape publiquement l'autorité politique des gouvernants hérodiens et romains. Il s'agit donc bien là d'une attitude ouvertement séditieuse. D'autant que l'utilisation du verbe « rendre » l'ajout de l'adverbe « donc » ne laisse aucune ambiguïté sur la radicalité de son message. Jésus aurait pu en effet se contenter du verbe « donner ».« Donnez donc à César ». Et là, l'affaire prenait une toute autre tournure. On comprenait alors « donnez donc à César ce qui est à César », c'est-à-dire « payez-lui donc son impôt », entre parenthèses, puisqu'il n'y a pas moyen d'y échapper. Et là, toute polémique s'éteignait. Mais non, c'est bien le verbe « rendre » qui est employé. Et ce verbe est le pivot du message de Jésus. Le pivot, « rendre », c'est le message. Alors arrêtons-nous quelques instants sur l'emploi de ce fameux verbe « rendre ». Pour rendre, il faut d'abord avoir reçu. Première des conditions. Pour rendre, il faut ensuite reconnaître, avoir une dette. Qu'elle soit morale ou d'espèce sonnante et trébuchante. Car si c'est un don, évidemment, on ne rend rien. Pour rendre, il faut enfin avoir une raison et une opportunité de le faire. Rendre, c'est donc éteindre une dette. Mais dans ce texte, de quelle dette parlons-nous? Qu'est-ce que Jésus demande de rendre? Quel sentiment de dette le peuple juif a-t-il envers Rome? De quoi Israël serait-elle la débitrice de Rome? La Pax Romana? La fameuse paix romaine, garante d'ordre et de stabilité que nous vantent nombre d'historiens? Voyons un peu. Avant que les troupes de l'Empire n'envahissent le territoire d'Israël, cette dernière n'avait-elle pas déjà sa propre organisation politique, religieuse et administrative? Alors quelle légitimité aurait l'occupation de la terre juive? Serait-ce par exemple pour faire cesser des troubles graves et endémiques? En aucune façon. L'occupant en viole le sol sacré et s'y maintient par la force des armes afin d'appliquer une politique de rapine au profit de Rome et de ses dirigeants. Jésus, en demandant d'exhiber le fameux denier à l'effigie de César, rappelle sans détour la réalité matérielle de l'occupation. En effet, seule la force publique détient le privilège de battre monnaie. L'expression « rendre à César sa monnaie » prend alors un tout autre sens. Dans ce cas, la seule chose à rendre à l'occupant, c'est bien la monnaie de sa pièce. Et là, la déclaration de Jésus claque comme une gifle. Rendez donc la monnaie de sa pièce au César qui nous opprime. C'est donc bien un appel des plus clairs à la désobéissance, voire à la révolte. Nous sommes ici très proches des thèses zélotes, mouvement juif de résistance armée contre Rome. Et le corollaire est évidemment de combattre pareillement ceux qui sont complices de cette occupation, c'est-à-dire les collabos hérodiens et pharisiens. Rien d'étonnant donc à ce que Jésus ait été condamné par la suite. Bien entendu, les propos de Jésus ne sauraient se limiter à l'appel à la résistance, à l'indignation, à la révolte. L'essentiel de son message universel, celui qui nous concerne directement, réside dans la deuxième partie de son aphorisme. Dans « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », abordons maintenant la phrase « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». La formule place Dieu au centre du débat, et Dieu avant toute chose. Jésus ouvre ici une toute autre perspective. Il demande à l'assistance. De quoi vous préoccupez-vous réellement? Où est donc Dieu dans votre discours? Où est donc le divin dans votre pensée? C'est pas aussi simple. En l'exprimer en parole, c'est une chose. Le vivre profondément dans l'intimité, c'est complètement différent. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si on doit ou pas payer l'impôt. Ce qui est important, dit-il à l'Assemblée, c'est de savoir comment vous vous situez par rapport à Dieu. Quelle est votre relation individuelle, intime avec Dieu ? Se pose alors la question de savoir à qui est destinée cette déclaration. Bien sûr, il répond à ses contradicteurs. Mais au-delà, n'oublions pas qu'il s'adresse à un public hétérogène, hautement concerné par son action prophétique. Curieux, individu en recherche, personne peut-être déjà en cours de conversion, et pour certains, c'est fidèle. En somme, nous-mêmes aujourd'hui. Et comme Jésus aborde désormais une dimension théologique et philosophique nouvelle, il faut ici reprendre l'aphorisme dans son entier. « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il y a donc bien l'homme d'un côté et Dieu de l'autre côté. Jésus pose ainsi la question essentielle de notre rapport à Dieu dans les actions que nous entreprenons. Alors, quelles sont les voies ouvertes par ce message tout entier contenu dans 17 mots seulement ? Comme tout ce qui est déclaré, c'est d'une concision exceptionnelle. Je voudrais vous proposer trois pistes possibles. Alors là, on est dans la deuxième partie, celle où on peut en tirer un peu notre suc pour nous au quotidien. Trois pistes possibles concernant la question essentielle de notre rapport à Dieu. Première lecture. Une lecture immédiate faite dans le cadre d'une morale d'impératif catégorique issue de la loi. Oui, Dieu nous a fait le don de la création, il nous l'a confié, à nous de préserver et de faire fructifier ce qu'il nous a légué. Oui, il nous a confié un système de valeurs dont l'amour est la pierre d'angle, à nous de lui rendre hommage et de donner le plus d'ampleur possible à ses valeurs. Oui, nous avons une dette inextinguible envers Dieu Tout-Puissant. Cette dette, nous ne l'avons pas créée de notre volonté, mais nous en sommes néanmoins redevables. Voici une vision historique de notre lien à Dieu, bien ancrée dans la tradition collective et ecclésiale. Dans cette conception, notre rapport au divin, le dialogue individuel, intime avec Dieu, y trouve-t-il pleinement sa place ? À chacun d'y répondre. Deuxième interprétation envisageable, on ne va pas passer beaucoup de temps, rendons radicalement à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire défaisons-nous du lien qui nous unit à lui. C'est toujours possible. L'athéisme moderne tente d'y parvenir, au bout du compte, il aura au mieux remplacer Dieu par l'homme. Bien entendu, cette deuxième interprétation n'est considérée ni par Jésus, ni par les civilisations de son époque, puisque la croyance en le divin était une évidence. En fait, il existe une troisième voie que je soumets à votre réflexion. Cette voie consiste à comprendre « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » par « Rendez à l'homme ce qui lui revient » ce qui est à sa portée. Et le reste, c'est entre les mains de Dieu. Dieu a voulu un lien avec l'homme, mais ça n'est pas une dette. Il n'y a rien à lui rendre. Ce lien est l'expression de son amour. Ce que Jésus nous demande de faire, c'est d'affiner notre discernement chaque jour davantage afin de comprendre ce qui nous revient, ce qui est en notre pouvoir et d'identifier ce qui trouve sa place naturellement entre les mains de Dieu. À mon sens, c'est cette interprétation qui nous parle vraiment aujourd'hui, même si elle s'inscrivait déjà dans la théologie juive et dans la philosophie grecque de l'époque. C'est là que réside l'exercice de notre liberté d'humain. Bien sûr, pour faire le tri entre ce qui est à notre portée et ce qui ne l'est pas, encore faut-il savoir ce qui échoit à l'homme. Et ce n'est pas simple. D'abord parce que ça varie éminemment d'un individu à l'autre, et d'une période de la vie à l'autre. Toujours la force physique, l'énergie vitale, la motivation, la ténacité psychique, les moyens dont on dispose. Souvenons-nous de l'aphorisme. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Mais ce qui est possible pour certains n'est pas possible pour d'autres. D'autre part, dans ce qui est à notre portée, tout n'est pas à entreprendre. Dans ce qui est à notre portée, tout n'est pas à entreprendre. Il s'agit d'entreprendre ce qui est vraiment souhaitable. Mais souhaitable au nom de quoi ? Une même situation peut donner lieu à des prises de position très différentes, voire antagonistes. Un exemple. Prenons un sujet sensible de l'actualité, celui de l'afflux des immigrés. Réagissons à titre individuel. Je cite Matthieu 25-45. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et même sans se référer à Matthieu, comment refuser de l'aide à ceux qui, exténués, échouent enfin sur notre sol après avoir risqué 20 fois leur peau ? À titre individuel. Mettons-nous maintenant en situation de responsable de l'ordre public. Impossible de ne pas organiser et contingenter le flux migratoire. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les pays du refuge au XVIIe et XVIIIe siècle devant l'afflux des Huguenots français. Rappelons le choix de la ville de Genève d'intégrer les métiers jugés utiles et de faciliter le transit des autres vers la Prusse et la Hollande. Et pour prendre un exemple d'actualité, ne pas organiser et contingenter le flux migratoire favorise mécaniquement l'émergence du populisme et des forces de la rue. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Pologne, on l'a vécu chez nous, en France. Puis ce fut le tour de l'Allemagne, et maintenant c'est le tour de l'Autriche. On le voit, ce qui est souhaitable à titre individuel ne l'est pas nécessairement pour le collectif. Alors comment être sûr que nos décisions sont les bonnes, ou en tout cas les moins mauvaises dans un cadre donné ? Même lorsque nous prétendons maîtriser notre vie, nous sentons bien que le plus important nous échappe. D'abord parce que quoi que nous fassions, nous restons en permanence à la merci d'événements qui nous dépassent et face auxquels nous sommes totalement impuissants. Mais surtout parce que notre vie, à nous, a toujours quelque chose d'inaugural. Elle se présente à nous sous un jour perpétuellement inédit. L'expérience des autres était très peu transmissible. Comme le dit humoristiquement le proverbe populaire, l'expérience est un peigne pour les chauves. Et la même histoire se rejoue éternellement à chaque génération. Citons les mots du moraliste Champfort, « L'homme arrive novice à chaque âge de la vie. Nous sommes ainsi constamment en situation d'apprentissage. » On le voit bien, pour faire la différence entre ce qui nous revient et ce qui appartient à Dieu, il n'y a pas de mode d'emploi. Aucun enseignement ne donne de solution toute faite. On peut lire tous les textes, tous les livres, sacrés, pas sacrés, il n'y a pas de mode d'emploi. Puisqu'il nous est impossible de tout contrôler, de tout prévoir, ce sont donc bien nos capacités de discernement et d'adaptation qui sont requises à chaque prise de décision importante. Puisqu'il est impossible de contrôler et de prévoir, il s'agit bien de discerner et de nous adapter. Pour autant, dans cette incertitude permanente, sommes-nous abandonnés ? Bien au contraire, Lorsque Jésus nous demande de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, il nous demande de questionner sans cesse la partie divine qui est en nous, de cultiver notre dialogue intime avec l'Esprit. Jésus dira d'ailleurs la même chose à la Samaritaine dans Jean 4, 7, lorsqu'il lui dit « Donne-moi à boire ». Quand il lui dit, il lui demande à boire, évidemment, ce n'est pas de l'eau. Ce qui est assez grand pour récupérer l'eau tout seul. Ce qu'il lui demande, c'est que cette femme prenne soin de lui. Et ce faisant, qu'elle laisse toute la place au divin qui est en elle. Grâce à cet exercice, au moment du choix, au moment du partage entre l'humain et le divin, nous ne sommes plus seuls. Voici le moment où la lumière de Dieu brille tout particulièrement. Voici le moment où la lumière de Dieu brille tout particulièrement. Lorsque l'Esprit nous éclaire, à chaque étape, à chaque événement, c'est alors que nous rendons véritablement à Dieu ce qui est à Dieu. Pas d'autre solution que de se confier à l'Esprit, au souffle divin, pour nous guider vers le véritable discernement. À chaque situation, il faut inventer une réponse adaptée, nouvelle pour la plupart du temps. On sait que le discernement est favorisé par un état de disponibilité intérieure. N'est-ce pas la force de l'Esprit que de nous rendre disponibles ? N'est-ce pas lui qui nous aide à faire le vide en nous, à faire taire les voix discordantes, à purger le trop-plein des habitudes de pensée ? En un mot, à lâcher prise. N'est-ce pas lui l'organisateur de ce vide qui rend notre écoute fructueuse ? Arrêtons de penser. Mettons-nous à ressentir. Il nous est alors possible de comprendre nos faiblesses et nos limites. Et c'est justement cette compréhension qui nous pousse à concevoir l'action différemment, à faire autrement, en clair à nous adapter. N'est-ce pas là une des nombreuses formes de la grâce ? On le voit bien, aucun petit opuscule du prêt-à-penser n'est disponible. Il faut nous débrouiller seuls et faire au mieux avec l'aide de l'Esprit. Mais finalement, n'est-ce pas justement dans cette incertitude, dans ce questionnement que brille en nous la lumière de Dieu ? N'est-ce pas une belle manière de respecter au mieux l'ordre du monde ? En tout état de cause, c'est dans cette morale de l'action que se forge notre liberté d'être humain. C'est là que réside notre vraie richesse. Ça rend humble. C'est dynamique. Et dans notre dialogue avec l'Éternel, ça nous permet de mettre nos pas dans ceux d'Isaïe. Je cite 45:3. « Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses cachées, afin que tu saches que c'est moi, le Seigneur Yahvé, qui t'appelle par ton nom. » Et ça, c'est rassurant. Et c'est une très bonne nouvelle. Amen.